Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente l'épisode 18 de la saison 2 sur le thème de la maternité solo. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite dans un petit village des Yvelines en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée et d'origine bourgeoise. Aujourd'hui, je reçois Juliette. Bonjour Juliette.
Salut Marie.
Comment tu te présentes et comment tu te définis, si c'est le cas ?
Eh bien, je m'appelle donc Juliette, j'ai 33 ans, j'habite en Belgique, je suis belge. Et par rapport à ce qui nous amène à la discussion d'aujourd'hui, j'aime bien me présenter comme étant une mère hors pair, P-E accent grave R-E. Ça veut dire du coup que j'ai le projet et je suis en train de terminer une grossesse d'une petite fille qui n'aura pas de papa, donc sans papa, oui, et je suis à 8 mois et une semaine de grossesse.
Merci Juliette. Donc dans ce podcast, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat en France, mais aujourd'hui en Belgique. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois, donc aujourd'hui on va discuter du célibat et de la maternité en célibataire, comment on fait un bébé toute seule entre guillemets, pourquoi faire un bébé toute seule, peut-on compter sur notre entourage, sur le personnel soignant, on va se poser plein de questions, toutes ces questions et bien d'autres avec toi Juliette qui a choisi ce thème et qui est donc enceinte de 8 mois, on va le répéter. Mais d'abord voici les questions habituelles de Sologamy. Juliette, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire?
Cette question-là je me la suis posée déjà quelques fois. J'arrive pas à avoir de réponse satisfaisante. Je dirais de manière tout à fait simple que pour moi, être célibataire, c'est simplement pas avoir de compagnon ou de compagne fixe dans sa vie. Et puis je me suis dit tantôt, je vais aller voir un peu sur internet ce qu'il raconte, et je trouve que toutes les définitions sont absolument affreuses. Ça donne pas du tout envie. Or, c'est aussi pour ça que je t'avais contacté. Je trouve qu'il y a plein de choses en fait super chouettes dans le célibat. On aura l'occasion, j'imagine, d'y revenir, mais je le vois de manière assez sereine, en tout cas pour le moment. Mais oui, c'est ça. La définition vraiment classique de un peu l'inverse du couple, quoi, en gros.
Ok. Et depuis quand tu es célibataire? Est-ce que tu as souvent été célibataire?
J'ai pas du tout souvent été célibataire. Je crois que je suis en train de battre des records. Là, ça fait 14 mois que je suis célibataire. Mais donc 8 mois de grossesse, quand même, pour le coup. Sinon, j'avoue que j'ai jamais trop été célibataire. J'ai été dans 3 longues relations. Et à chaque fois, j'avais quand même quasiment tout le temps quelqu'un en tête ou quelqu'un avec qui j'avais des petites histoires. Et donc là, c'est vraiment... c'est tout neuf pour moi, cette histoire de célibat.
Est-ce que tu relies bonheur et couple ?
Eh bien, absolument pas. Pour le moment, tu vas voir, je pense que j'ai un discours très très pro-célibat. Mais alors, j'ai vécu des très chouettes histoires, hein, c'est pas ça. J'ai vécu des moments vraiment très positifs et très épanouissants. Mais j'ai aussi vécu vraiment des histoires fort difficiles. Je me sens, en tout cas pour le moment, vraiment bien en étant célibataire. Et puis j'écoutais ton premier épisode de la saison 2 où tu expliquais en gros que en fait il se passait plein de trucs super chouettes quand on était célibataire aussi. Et à vrai dire, quand j'y repense, moi j'ai acheté une maison toute seule en étant célibataire, je suis partie à New York, j'ai fait du surf, enfin plein de trucs que j'aurais pas fait si j'étais en couple, je pense. Et donc je dirais plutôt l'inverse pour le moment. Après, à voir si mon discours évolue, mais en tout cas pour l'instant, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt l'inverse pour moi.
Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui, du coup ?
Bien meilleure que ces dernières années, je dirais. Je me sens beaucoup plus sereine, je suis beaucoup plus en accord avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Donc je dirais, sans prétention évidemment, plutôt bonne ces derniers mois.
Waouh, c'est pas facile, mais d'accord. est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuellement ou non? Parce que des fois, c'est plus économique d'être en couple.
Là non plus, en fait. Faut savoir que du coup, moi, j'ai un peu 2 emprunts sur la tête avec à la fois ma maison, donc je suis propriétaire, et puis y a ma bagnole, et puis... Et en fait, je gère beaucoup mieux en étant toute seule qu'en étant avec quelqu'un, en tout cas dans mes dernières expériences, parce que je fais mes calculs, quoi. Je sais exactement combien d'heures je dois travailler pour être vraiment confortable. Et puis, j'ai l'impression que je ne dois pas restreindre mon budget en fonction de certaines envies de mon compagnon. Et par ailleurs, dans ma dernière relation, on avait tendance à être un peu des flambeurs, quoi. On allait tout le temps au resto, on partait tout le temps en vacances. Et par ailleurs, je pense que j'ai des envies qui sont un peu plus simples pour l'instant. Et donc, je trouve que c'est en tout cas vraiment beaucoup plus facile d'être seule. Et moi, je ressens pas trop d'impact négatif du célibat sur mon budget. Au contraire, j'aurais tendance à dire, mais après, je peux bien comprendre effectivement que ce soit parfois plus compliqué pour certains. Mais c'est pas trop mon cas pour le moment, en tout cas.
Ok. Et comment tu vis ta sexualité en célibataire et en personne enceinte?
Oui, ça c'est clair. C'est une question que je me suis posée, je me suis dit, bon sang, mais ça va pas être gagné de rencontrer quelqu'un en étant enceinte. Mais en fait, ça s'est bien calqué dans cette période-ci de ma vie où j'avais de toute façon pas trop envie de rencontrer des gens. Et alors, j'ai lu un livre incroyable, je sais pas si je peux le citer ou en parler, enfin, qui s'appelle du coup Les corps abstinents, je sais pas si t'as déjà entendu parler.
Ouais.
D'Emmanuel Richard, et qui est vraiment très très chouette parce qu'elle questionne à la fois des gens qui sont abstinents sexuellement par un peu par dépit, et puis d'autres qui le sont aussi par choix, et je trouvais que ça ouvrait vraiment la discussion à plein d'autres perspectives, un peu comme le célibat en fait, où on peut penser que le célibat c'est toujours un peu, ça nous tombe dessus et on sait rien y faire, mais en fait je reste assez persuadée que ça peut bien se vivre et que ça peut aussi être un choix dans une période de vie. Et donc en fait ça m'a vraiment beaucoup parlé cette lecture, et je m'y retrouve assez bien, donc plutôt abstinente pour le moment, mais ça me fait découvrir aussi bah, d'autres choses sur moi, quoi, d'autres priorités. Et donc c'est pas mal, en fait.
Et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat ?
Je l'ai toujours été, je dirais. À chaque fois, un peu dans les périodes entre les longues relations, j'étais fort sensible à ça. Maintenant, je le vis un peu plus comme presque parfois un peu comme une provocation. Tu vois, quand les gens me parlent du papa, je le dis de manière parfois presque un peu trop frontale. Je dis, mais il n'y a pas de papa, c'est juste moi. Enfin, j'en rigole, quoi. Les gens sont parfois un peu heurtés. Je me dis que je devrais un peu ménager les gens, mais en gros, plus maintenant. Au début, fort, je dirais même quand j'étais plus jeune, mais pour le moment. Mais aussi parce que mes proches, ben voilà, ils savent que je suis célibataire et personne ne m'emmerde avec ça. Je pense que la grossesse me préserve aussi un peu, c'est-à-dire que personne ne va me dire « Bon et quoi, quand est-ce que tu te mets en couple ?» parce que j'ai un peu autre chose à penser, il faut bien l'avouer. Et donc en fait, pour l'instant, c'est assez relax, je dois dire, par rapport à ça. Mais aussi parce que je le vis mieux, je pense, parce que tout un temps aussi, je le vivais vraiment comme le gros échec de ma vie, où je me disais « Ben... » En gros, tout va bien, mais ma vie sentimentale est vraiment une catastrophe. Et maintenant que je le vis de manière un peu plus cool, en fait, personne ne m'ennuie avec ça. Donc, tant mieux d'ailleurs.
Trop cool. Bon, bah, on va passer au thème dont on parle à demi-mot depuis tout à l'heure. Déjà, pourquoi tu as choisi ce thème? Je ne sais pas, par exemple, parce que tu es enceinte.
Absolument, mais je t'ai contactée assez tôt, je pense, dans ma grossesse, t'étais encore dans ton Survivor Tour. C'est un peu paradoxal parce que j'ai décidé de quitter plus ou moins les réseaux sociaux et en même temps j'avais quand même vraiment envie de parler de ce sujet-là, plus justement un peu pour briser les tabous parce que je le fais pas par dépit en fait, c'était vraiment un choix de ma part et je suis hyper contente que ça aboutisse, je suis hyper contente de le faire seule, je trouve qu'il y a plein d'avantages. Alors je m'organise, hein, c'est pas ça, mais il y a quand même beaucoup de choses à penser, et puis il faut pas le faire non plus n'importe comment, je crois, mais j'avais envie de, si pas de donner des idées aux gens, au moins de leur donner le courage de le faire s'ils sentaient que c'était important pour eux. Aussi parce que j'estimais que... Enfin, moi, je me suis vraiment retrouvée en difficulté en étant en couple, surtout dans ma dernière relation, et je me suis dit, bah merde, alors si la maternité dépend du fait d'être en couple, ça va quand même être vraiment compliqué, et là, au moins, il y a autre chose qui est possible, j'avais envie de pouvoir partager avec toi autour de ça, pour un peu libérer la parole, quoi, que ce soit plus trop un tabou, en fait.
Grave. Du coup, on en vient au désir d'enfant. Depuis quand tu as un désir d'enfant ? Enfin, je suppose que tu en as eu un, vu que tu es enceinte. Et comment tu expliques ce désir d'enfant ?
Je dirais de manière un peu cliché que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Je m'imaginais dans un parcours très classique, en fait. Au début, je m'imaginais finir mes études et puis être en couple, me marier, avoir des enfants. Enfin, bref, tout le travail. J'ai toujours voulu avoir des enfants jusqu'à il y a à peu près un an et demi où j'ai commencé à me poser un peu des questions plus sur des aspects écologiques en fait. Je l'ai pas dit dans ma présentation, mais il se fait que je suis végane et j'ai commencé à l'être pour des raisons vraiment écologiques en termes de bon, faut qu'on arrête cette catastrophe en termes de pollution et d'utilisation des ressources et tout ça. Et à ce moment-là, je me disais, bon, ben, en fait, avoir des enfants, clairement, ça pollue. C'est peut-être pas le premier argument qui fait que les gens n'ont pas envie d'avoir des enfants, mais en tout cas, ça me marquait à ce niveau-là. Et puis, il se fait que je me suis séparée de mon compagnon à l'époque et le désir d'enfant est tout de suite revenu. Donc là, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas que pour des raisons écologiques, il y avait peut-être aussi quelque chose qui dysfonctionnait dans mon histoire, pas dans mon histoire de couple en tout cas. Et donc, pour le désir d'enfant, c'est revenu en fait assez vite après ma rupture, quoi.
Donc, tu l'expliques pas vraiment?
Ben, je pense qu'au début, c'était presque une espèce de non-question, si tu veux, où je me disais, bah oui, je vais avoir des enfants un peu comme tout le monde. Et puis le fait de me dire, ben non, je crois que finalement, je veux pas avoir d'enfants, quand c'est revenu, là, j'étais assez sûre que c'était vraiment un désir d'enfant, tu vois, qui m'était propre, quoi, qui m'était personnel. C'est dur à expliquer, je crois, un désir d'enfant. C'est quelque chose que tu ressens un peu dans tes tripes, mais... L'idée d'avoir un foyer, d'avoir... Ouais, je sais pas très bien l'expliquer davantage, en fait. Et je suis pas sûre que les couples, même, savent l'expliquer davantage que dans un projet solo. Enfin, j'en sais rien.
Ouais, ouais, non, mais je demandais ça parce qu'en fait, on demande rarement aux personnes qui ont des enfants, surtout les personnes en couple, hétérosexuelles, on leur demande très rarement pourquoi vous faites des enfants, ça a l'air évident. Et ça peut venir des tripes ou ça peut être construit, enfin, ça dépend des personnes. Et donc, moi, j'ai pas de désir d'enfant. Et dans l'épisode précédent de Sologamy, l'épisode 17, qui est sorti au mois de janvier, avec Tsipora, on n'a pas de désir d'enfant. Et on explique toutes les deux que ça vient de nos tripes et que nous, on sait depuis toujours qu'on n'a pas envie d'enfant. Et pourtant, on nous demande toujours de nous justifier par rapport à ce nom de désir d'enfant. Donc, c'est pour ça que j'aime bien demander aux gens qui font des enfants pourquoi vous avez fait des enfants. Et... souvent, les gens qui ont genre 50, 60 ans, enfin, savent même pas répondre à cette question. Genre, j'ai fait des enfants parce que c'était comme ça, quoi.
Et, mais t'as raison, t'as tout à fait raison. Et d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, mais faire un enfant toute seule, c'est quand même pas ultra facile au niveau administratif, etc. Et je me suis dit, mais c'est quand même grave qu'on vienne m'emmerder avec des questions qu'on pose pas à des gens en couple, même pas dans un contexte d'amitié, tu vois, ou, enfin, j'aurais jamais demandé à ma sœur, mais pourquoi tu fais des enfants, en fait? Parce que de un, c'est terriblement intrusif, peut-être. Et de deux aussi, parce que je suis pas sûre qu'elle aurait pu me trouver une réponse. Enfin, qu'est-ce qui explique qu'on ait envie d'avoir des enfants? Donc oui, je comprends bien ta question. Mais je suis pas sûre d'avoir plus de réponses.
Passons au vif du sujet. Quand est-ce que t'as décidé de passer à l'action? Comment t'as fait pour tomber enceinte matériellement? Enfin, comment ça s'est passé dans ton parcours? Rappelons que t'es en Belgique, donc c'était pas exactement la même chose qu'en France, je suppose.
Oui, et en même temps, c'est vrai que je me demandais si c'était pertinent de discuter de ça avec toi, qui a probablement évidemment plus un public français, et en même temps, je pense que les Françaises vont soit en Espagne, soit chez nous. Et je me suis dit, ben, en fait, mon parcours peut être tout à fait fait par une Française. Et donc, en gros... assez vite après ma rupture, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Et comme dans à peu près tout ce que je fais, quand j'ai une idée en tête, je le fais de manière un peu monomaniaque, c'est-à-dire que je lis à fond, j'écoute des podcasts, je vais me renseigner, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, je suis d'abord allée dans un premier hôpital, pas très loin de chez moi. Et puis là, ça s'est pas très, très bien passé parce que j'ai pas eu un bon contact avec... avec la psychologue que j'ai dû rencontrer. Donc t'as vraiment tout un parcours, quoi, relativement complexe, mais en gros tu dois passer d'abord chez la gyné, puis tu dois faire plusieurs séances souvent chez le psy. C'est un peu space. D'ailleurs, tu te fais vraiment cuisiner sur sur tes motivations, sur comment ça va se passer, comment tu vois le truc, etc. Et en même temps, je comprends aussi qu'elle le fasse, mais voilà. Et donc ça s'est pas très bien passé à cet hôpital-là parce que chaque hôpital a un peu ses règles internes, si tu veux. Et là, en gros, il fallait qu'il y ait un an de célibat et j'y étais pas encore. Et donc ils me l'ont annoncé à la troisième séance. J'étais hyper déçue. Donc j'ai changé d'hôpital, je suis allée à Bruxelles. Et là, par contre, ça a été très 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 vite. Et il y a eu un tout petit peu plus d'un mois entre ma première rencontre avec la gyné et le fait que je tombe enceinte. Donc c'est vraiment allé très 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 vite. Donc ça, c'était assez cool quand même. Mais J'ai vraiment eu l'impression d'y aller tête baissée, quoi, en me disant bon, maintenant tu mords sur ta chic, vraiment comme un passage obligé, quoi. Enfin, c'est quand même pas très agréable, tout ce qui est gyné, tous les tests, tous les... Tu te fais vraiment cuisiner aussi sur oui, sur tes motivations, sur ta vie perso, en fait, sur tes histoires de couple précédentes, sur tes ressources financières, familiales, enfin. C'est quand même pas toujours très gai ou très facile. Et puis, mais bon, j'ai un peu tracé ma route et puis ça a bien fonctionné. Donc.
Et du coup, plus techniquement, pour les personnes qui connaissent pas la PMA, comment ça se passe? D'où vient le sperme? Il te l'injecte comment? Est-ce que ça marche du premier essai?
Alors, donc, la PMA, c'est la procréation. Oui, la procréation médicalement assistée. Et donc, effectivement, en gros, moi, je suis passée par un donneur anonyme. Je ne sais pas très bien comment c'est, du coup, en France, mais la législation, elle est passée, finalement, ou elle n'est pas passée?
Oui, ça vient de passer, ouais.
Oui. Et du coup, en fait, en Belgique, on ne peut pas avoir de donneur non anonyme. Et donc, je ne connais rien du donneur. C'est très important pour moi d'utiliser le mot donneur, c'est ni le géniteur et certainement pas le papa. Et donc le donneur, je ne sais rien de lui, si ce n'est que il vient probablement d'une banque de sperme danoise. C'est culturel là-bas en fait, ils donnent leur sperme comme nous on pourrait donner notre sang, de ce que je comprends en tout cas. Et du coup, non, les statistiques sont généralement pas très très bonnes, c'est à peu près 15% de réussite. Par insémination. Donc moi, je suis passée par une insémination artificielle. En fonction de la situation, en fonction de la fertilité, j'imagine de l'âge et de toute une série de caractéristiques chez la mère, ils décident de faire soit ce qu'ils appellent du coup une IAD, une insémination artificielle avec donneur, soit une FIV, donc une fécondation in vitro. Et là, c'est vraiment, je pense, beaucoup plus lourd en termes de traitement médical, avec les hormones, etc. Tu dois t'injecter des produits dans le ventre tous les soirs. Enfin, je crois que c'est assez dur, quoi. Moi, j'ai vraiment fait le plus simple. Donc, j'ai juste provoqué l'ovulation un jour et demi avant. Et puis, je suis allée chez ma gyné le jour J. J'étais hyper stressée. Enfin, je me sentais hyper... en ébullition comme ça, enfin, j'avais l'impression de jouer ma vie, en tout cas de jouer la vie de ma fille pour le coup, et je n'ai même rien senti, c'est encore moins douloureux qu'un frottis, c'est dire quoi. Il y a vraiment un moment où elle m'a dit ben voilà, c'est bon, c'est fait. Alors je me disais, mais quoi, je dois rester couchée, est-ce que je dois faire hyper attention? Ah non, vivez votre vie. Faites comme si de rien n'était. Alors c'est évidemment impossible, quoi, parce que tu te dis, je suis peut-être en train de créer un enfant, et donc je crois que je suis rentrée chez moi, je me suis couchée dans mon lit, j'ai passé la soirée couchée. Enfin. Puis après, effectivement, tu continues ta vie de manière plus ou moins classique, même si évidemment l'idée est un peu obsédante, tu y penses tout le temps, parce que tu te dis, mais si jamais ça fonctionne, enfin c'est un peu vertigineux comme ça. Et puis voilà, deux semaines après, tu fais une prise de sang pour vérifier si ça a fonctionné ou pas. Et en l'occurrence, bah du coup, ça avait fonctionné. J'ai dû avoir une confirmation 2 jours plus tard. Ils vérifient que ton taux d'hormone a bien doublé. Et puis une première écho, je crois, 1 mois après. Et là, tu vois un petit truc minuscule qui fait même pas 1 centimètre. Et tu te dis, allez, ça y est, c'est parti. Et voilà. Après, du coup, je suis repassée dans un système plus classique, quoi, avec mon gyné habituel. Donc, je dirais que je suis restée dans cette clinique-là. J'ai été suivie, en tout cas, dans cette clinique-là, en tout, pendant un peu plus de 2 mois, quoi.
Waouh, bah dis donc, ça a été efficace. Du coup, moi, ma question suivante, c'était sur ton entourage. À la fois ton entourage familial, amical, professionnel, et à la fois le personnel soignant, quel soutien t'as reçu de ces différentes personnes, ou pas de soutien? Quelles ont été les réactions?
C'était important pour moi d'avoir le soutien de mes proches avant de commencer. Et donc j'en ai parlé assez vite, en fait. Avant même de commencer, j'en ai d'abord parlé avec 2 amis proches, je crois, mes parents, enfin à peu près en même temps. avec mes frères et sœurs. Enfin, je me suis en fait assez vite entourée. J'ai l'impression que j'avais besoin d'avoir une espèce d'armée autour de moi pour justement pour être un peu forte par rapport à tout ça. Et toutes les premières réactions ont été vraiment bonnes. Je pense que j'ai bien sélectionné les gens à qui j'en ai parlé. Au début, les gens sont surpris. Et puis, en fait, quand t'expliques le projet, quand tu argumentes, quand tu mets le contexte un peu autour de ça, ben, les gens ont assez vite compris, en fait. C'était même assez soutenant. Donc ça, c'était vraiment pour m'être tout proche. Le personnel soignant, ben moi, mon gynécologue à moi, en fait, c'est lui qui m'a fait naître. Donc, il a un certain âge, du coup. Pour le coup, c'est un homme aussi. Et sa réaction a été un peu étrange. Enfin, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, je peux vous poser une question avec beaucoup de délicatesse. Hein, mais il m'a dit, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous attendez pas de retrouver quelqu'un ? Et c'était tellement un truc, enfin, ça m'est vraiment passé au-dessus de la tête. Je lui ai dit, ben... Je sais même plus ce que je lui ai répondu. Je crois que j'étais un peu choquée de sa question. Et je dirais en gros que tous les gens à qui j'en ai parlé, ceux qui ont eu une réaction, enfin les réactions les plus bizarres, c'était à chaque fois des hommes. Certainement encore plus des hommes de notre âge, qui probablement doivent se sentir un peu peut-être évincés du projet, ou enfin je sais pas très bien ce que ça peut susciter comme réaction, tu vois, mais c'est sûr que ah mais c'est bizarre, mais pourquoi tu fais ça? Et puis, il y a eu cette première clinique à laquelle j'ai été confrontée qui a fini par me dire, écoutez, vu qu'on constate que vous avez déjà été en couple, ben on se dit que c'est mieux pour vous d'être maman en couple et donc on préfère que vous fassiez ça, du coup, pas avec nous, quoi. Et j'avais envie de lui dire, mais vous avez rien compris de ce que j'ai raconté. C'est pas du tout que j'ai pas envie d'être en couple, c'est juste que ça se met pas et puis... Et puis l'envie est là, et puis ça se mettait aussi dans un contexte familial. En fait, si tu veux, je suis la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Mes frères et sœurs ont déjà leurs enfants, donc j'avais pas envie qu'il y ait un trop grand décalage avec les cousins. Et aussi, mes parents sont fraîchement pensionnés, et j'avais envie qu'ils puissent en profiter. Enfin, donc ça se mettait vraiment dans une histoire familiale plus large. Et j'avais l'impression que les gens passaient complètement à côté de tout ça, quoi, quand ils réagissaient comme ça. Sinon, l'hôpital où j'étais à Bruxelles, là, ils ont été hyper compréhensifs, mais je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de ce genre de projet. Ils m'ont pas du tout ennuyé avec ça. Et puis après, en fait, une fois que c'est lancé, j'étais un peu blindée contre les réactions, quoi, des gens. Puis en fait, les gens disent pas. Enfin, il y a eu personne qui m'a dit « Mais t'es complètement barge, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vas la faire souffrir, elle va souffrir de pas avoir de papa. Enfin, personne n'a eu en tout cas le culot de me dire ça en face. Et donc, oui, c'est ça. Ça m'a pas plus heurté que ça, quoi.
D'accord. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui à 8 mois de grossesse? Est-ce que t'es confiante pour l'avenir? Est-ce que tu te projettes célibataire avec cet enfant? Enfin, j'ai un peu compris tes réponses, mais... Si tu peux préciser tout ça.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Je t'avoue que parfois ça m'angoisse quand même un tout petit peu où je me dis bon sang, mais je vais. Enfin, parce que cette petite, elle va rester avec moi tout le temps, quoi. Il ne va pas y avoir de garde partagée. Elle va dormir avec moi tous les soirs, a priori. Et donc c'est vrai que parfois je me dis est-ce que je ne suis pas en train de faire une croix sur. Une vie de couple pour les 10 prochaines années. Et puis en même temps, à chaque fois que je me dis ça, après, je me rassure assez vite en me disant que clairement, moi, j'estime que ça en vaut la peine que ça fait sens dans mon histoire pour le moment. Alors par contre, c'est très difficile de me projeter, j'arrive pas du tout à me dire comment ça va être, mais parce que je connais pas encore son tempérament, est-ce qu'elle va être toute calme, ou est-ce qu'elle va plutôt être comme sa maman, être un peu turbulente et, et hyperactive, enfin c'est très difficile d'anticiper, mais je suis en tout cas bien entourée, donc j'ai bon espoir que ça se passe correctement, on verra un peu, mais par rapport effectivement au couple, de un, c'est pas du tout la priorité, et de deux, j'ai l'impression que ça le sera encore moins une fois qu'elle sera dans mes bras, tu vois, je vais pas me dire, oh là là, j'aimerais trop être en couple là maintenant. Alors ça aussi c'est un truc qui est peut-être un peu bizarre, j'avais quand même des gens dans mon entourage qui me disaient, ah, faire des échos toute seule, ça doit être difficile, mais en fait moi je n'ai jamais connu que ça, donc ça n'a jamais été difficile pour moi de faire une écho toute seule, parce que bah parce qu'en fait j'ai l'habitude, quoi, j'ai fait tout le processus en solo, et donc je n'en ai pas du tout souffert. Et au contraire, je crois que ça me ferait bizarre d'avoir un peu quelqu'un dans les pieds, là, tu vois, de me dire « Non, mais t'inquiète, je vais y aller toute seule, j'ai pas besoin que tu viennes avec. » Donc, à la fois, je suis confiante, et à la fois, je me dis « Je sais quand même pas ce qui m'attend, quoi. » Donc, j'aurais effectivement peut-être pas le même discours dans 3 mois, quand elle sera toute petite, toute minuse dans mes bras, mais en tout cas, pour l'instant, j'y vais un peu en confiance, et puis on verra, quoi. Et au pire, je m'adapterai, hein, comme on fait tous toujours, en fait, finalement.
Et tu peux compter sur des personnes qui vont t'entourer au moment de la naissance, du postpartum, ou tu es plutôt isolée dans la ville où tu es ?
Non, alors je vais aller accoucher avec ma maman. Donc là, à ce niveau-là, je serai déjà pas toute seule. Je vais rester sans doute les premières semaines un peu chez mes parents, pour avoir un peu du soutien, du renfort quand c'est nécessaire. Et puis, j'ai pas de date de fin par rapport à mon séjour là-bas, donc je me dis pas, bon, c'est 3 semaines et puis je rentre chez moi. Et par ailleurs, j'ai prolongé, je sais pas très bien quel est votre système de congé mat en France, mais chez nous, c'est à peu près 3 mois après la naissance. Et puis, je prolonge avec 4 mois de congés parentaux, plus encore un peu des congés. Donc, en fait, en gros, j'ai 8 mois où je serai avec elle, quoi. Et donc, je pense que ça va me laisser bien le temps de prendre mes marques. Et puis, ouais, il y a toute la famille qui est tout autour, quoi. Mes parents, ils sont à 5 kilomètres. Mon frère, il est à 3 kilomètres. Donc, ça va. Puis, il y a les copains, quoi, aussi. Je me sens pas trop seule. Mais par ailleurs, j'ai un caractère assez, un tempérament plutôt, assez indépendante. Donc, je vais pas trop en souffrir si à certains moments, ce sera peut-être plutôt moi, quoi, qui vais dire un moment, bon, je vais un peu rentrer chez moi. Donc, je crois que ça va bien se passer.
Trop bien, bah, c'est ce qu'on te souhaite. Et pour finir, je me demandais, parce que au début, tu disais que c'était important pour toi de parler via Sologamy à d'autres personnes qui peut-être veulent faire la même chose. Et donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui veulent faire un enfant en célibataire, qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais pas si t'as un conseil ou si t'as juste un encouragement.
Je leur dirais de pas hésiter à faire plusieurs cliniques, si c'est possible. Parce que moi, je me suis vraiment pas du tout sentie ni écoutée ni respectée dans mon projet dans la première clinique, mais par contre dans la deuxième, ça a été vraiment super. Je pense que pour faire un projet comme celui-là, c'est important de se sentir entendue et respectée. Et puis de s'entourer, en fait, aussi. C'est quand même un projet qui est pas tout à fait commun. Et donc de trouver si possible des nanas qui passent par là ou qui sont passées par là, ou oui, et de s'entourer de gens qui sont bienveillants, quoi, par rapport à un projet comme ça, parce que si en plus de ça tu dois gérer les gens qui te jugent, c'est quand même pas de la tarte. Mais je dirais oui, de pas hésiter à faire plusieurs cliniques et puis de s'entourer, quoi.
Très important de s'entourer. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que tu serais d'accord peut-être dans quelques mois ou années de refaire un épisode pour parler de ça avec l'actualité, parce que là, on ébauche le sujet et l'épisode touche bientôt à sa fin, mais ça te dirait ouais, qu'on garde contact et puis qu'on fasse un update quand tu auras effectivement un enfant.
Mais oui, oui, à fond. À fond, parce que je pense qu'il va y avoir un peu des suites. Enfin, déjà, il y aura la naissance et puis il y aura les premières années de cette petite. On va devoir un peu trouver nos repères, ouais, c'est clair. Et puis, oui, vraiment avec plaisir. Je trouverais ça chouette de pouvoir donner un peu des nouvelles.
Pareillement, et peut-être qu'on se verra en vrai un jour.
Bah oui.
Parce que la Belgique, c'est un peu... La Belgique et Paris, c'est un peu loin pour faire un épisode en présentiel, mais voilà. Le sujet en valait la peine. D'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, j'aime bien poser la question en fin d'épisode, comment on se connaît, comment t'es arrivée dans Sologamy ?
Eh ben, figure-toi que... pendant toute une partie de ma grossesse, j'étais vraiment en question sur des sujets féministes, et puis notamment aussi autour du célibat, où je trouvais ça vraiment hyper, hyper nul que ce soit perçu comme étant comme quelque chose d'un peu passif, quoi. Tu vois, célibataire un peu par dépit, c'est vraiment quelque chose qui m'agaçait beaucoup. Et puis je sais pas très bien comment je suis tombée sur la notion de célibat politique. Je me suis dit, ah, ça c'est trop bien. Et j'ai fait une petite recherche sur Google, et figure-toi que t'étais citée dans un article d'une grande chaîne en Belgique. Et puis il y avait ton podcast qui était cité aussi. Et du coup j'ai commencé à l'écouter à fond, et puis à me retrouver dans tout ce qui était raconté. C'est à ce moment-là que je t'ai contactée, et puis voilà, mais... C'était avec le mot-clé « célibat politique », tu vois.
Trop bien. Et un dernier mot, peut-être que tu n'as rien à ajouter parce que je t'ai déjà demandé un conseil, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les personnes qui nous écoutent, un projet que tu as, une œuvre culturelle que tu veux conseiller ou quelque chose que tu veux ajouter, mais si tu n'as rien, il n'y a pas de problème.
Écoute, figure-toi qu'hier j'ai commencé à lire le dernier la dernière BD de Liv Strömquist, qui est vachement cool d'ailleurs. Je sais pas, moi j'aurais surtout plein de bouquins à conseiller quoi sur le sujet, mais plus sur des aspects de féminisme, parce que y a rien à faire, je pense quand même que faire un enfant toute seule, c'est aussi une bonne manière de faire un doigt d'honneur au patriarcat. Et donc, je trouve que, enfin voilà, ouais, j'aurais plein de bouquins à conseiller. Je pensais à Pauline Armange avec son « Moi, les hommes, je les déteste ». Je trouve qu'il était fascinant, ce bouquin. Sans être à 100% misandre, évidemment. Enfin, voilà. Mais je pense que je vais faire un tout petit retour sur Instagram. Je me suis quand même créé une page et puis je me suis dit... Je vais voir si je l'alimente ou pas, donc j'y vais un peu à tâtons, mais qui s'appellera Une mère hors pair, sans accent, et tout attaché. Et je me suis dit, allez, quitte à jouer le jeu de partager mon histoire, ça pourrait être quand même rigolo d'avoir un peu des échanges, tu vois. Et que si t'as des auditeurs, comme tu dis, qui ont envie de me contacter, qui n'hésitent pas, parce que je partagerai avec eux avec grand plaisir.
Et ce compte est déjà créé, je peux le conseiller aux personnes ou non ?
Oui, tu peux. Je vais un peu le nourrir.
D'ici la publication. Et pour Liv Strömquist, tu parlais de quelle BD du coup, parce que...
Ah, il y a une histoire de miroir. C'est vraiment sorti il y a pas du tout longtemps.
C'est celui sur le corps, non ? Sur l'apparence physique ?
Le palais des miroirs. Ça te dit quelque chose ?
Oui, 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 mais je l'ai pas lu encore.
Oui, c'est effectivement... elle parle beaucoup de... des comparaisons, et en fait ça faisait écho au fait, je t'en parlais aussi dans ton premier épisode saison 2, le fait que en fait on se pose parfois simplement pas la question de savoir si on veut être en couple ou pas. C'est un peu comme une espèce de fatalité où bien sûr que tout le monde veut être en couple, alors qu'en fait parfois on s'auto-sabote sans trop comprendre pourquoi, et puis en fait on a peut-être simplement pas tout à fait envie d'être en couple. Et elle fait référence à ça, je sais plus comment elle l'appelle, mais au fait qu'on a envie d'avoir comme les autres, tu vois, tout comme on pourrait avoir envie d'avoir le même physique qu'une telle personne. Ben moi j'ai l'impression que tout un temps j'avais envie d'être en couple un peu comme les autres, mais en fait je suis pas certaine que j'ai vraiment vraiment envie d'être en couple au fond, tu vois. Donc je trouvais que ça bouclait un peu la boucle de la réflexion.
Ouais, et puis on peut aussi rapprocher ça de la maternité, ce qui n'est pas ton cas, mais il y a des personnes... Enfin, on est tellement habitué à vouloir un enfant qu'on ne sait même pas pourquoi on veut des enfants et que des fois, si on se pose vraiment la question, peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants. Et pour le couple, c'est pareil. Donc, je précise pour les personnes qui ne l'ont pas encore écouté que tu fais, que t'as pas mal fait référence dans cet épisode à l'épisode qui a inauguré la saison 2 de Sologamy, donc qui s'appelle Célibat politique, dans lequel je parle de tout ça. Et voilà. Merci beaucoup, Juliette. Donc, on va clore l'épisode ici. Chère auditorice, qu'avez-vous pensé de cet épisode, de ce sujet? Est-ce que vous aussi, vous voulez faire un enfant? Est-ce que vous considérez votre célibat comme un obstacle à ce désir d'enfant? Et comment vous envisagez l'avenir? Par la PMA, peut-être, puisque la loi est enfin passée en France, mais qu'elle exclut malheureusement encore les personnes trans. Et comment votre entourage réagit-il, hein, puisque c'est très important, enfin, d'après ce que j'ai lu, d'être entouré quand on construit une famille et d'être accompagné quand on ne peut pas dormir la nuit. Écrivez-moi pour me répondre. Donc mon pseudo c'est MarieAlbertFR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé ce 18e épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre comme d'habitude 5 étoiles. Et à le commenter sur votre application de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Célie, qui a écrit le 19 janvier 2021 sur ma cagnotte Tipeee. Deux points, ouvrez les guillemets. Merci beaucoup pour ton travail de déconstruction et tes réflexions féministes sur Instagram, tes podcasts que je suis assidûment et tes projets de rando qui m'inspirent à fond. Ça m'a d'ailleurs motivée à faire une partie du GR 120 cet été sur la côte d'Opale et à faire le choix de prendre une année sabbatique l'année prochaine pour faire entre autres, du trek. Bah, merci Célie et bravo. Merci pour ton message et ton soutien financier. Voilà, donc chère auditorice, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail et rémunérer la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je remercie Elsa, Florian, Tara, Blandine, Mathieu, Thomas, Héloïse, Lou, Fania, Kevin, Mathilde, Aristide, Lauriane, Manon, Elsa et Abdel pour leurs dons. Je mets, comme d'habitude, le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de cet épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles régulièrement. Je mets le lien pour s'inscrire dans les notes du podcast également. C'est gratuit. Et n'oubliez pas d'écouter mon autre podcast Marie sans filtre dans lequel je raconte des expériences intimes pour déconstruire le patriarcat. Voilà, merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différente. Au revoir Juliette.
Salut Marie.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.